RCF.
RCF.
Dans l'émission précédente, j'avais annoncé que nous aurions un invité, Jérôme Lemaire. Jérôme Lemaire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un réalisateur belge. Vous avez planté vos caméras dans un hôpital, l'hôpital Saint-Louis à Paris, pour traiter du phénomène du burn-out des médecins. Vous vous êtes basé sur un livre d'un philosophe belge.
Pascal Chabot. Oui.
Pascal Chabot. Et vous avez planté vos caméras il y a pendant 2 ans au moins dans cet hôpital. Pourquoi avez-vous adapté ce livre et pourquoi le faire à partir du milieu hospitalier ?
C'est-à-dire que je n'ai pas été vers l'hôpital, mais c'est plutôt l'hôpital qui est venu à moi. En fait, à la base, il y a ce livre, comme vous l'avez dit, Pascal Chabot, qui traite dans son ouvrage du burn-out comme étant une maladie de société, une pathologie de civilisation, comme étant un mal, un trouble miroir de notre société. Et moi, j'étais fort intéressé par cette manière de parler de notre société, donc j'avais envie de raconter une histoire au travers de cette maladie, mais qui reflète un petit peu l'état du lien humain entre tout le monde ici, pour le moment. Et donc, un jour, faisant des recherches avec Pascal, qui était le co-auteur du film sur lequel on travaillait, il a été invité à s'exprimer à Saint-Louis, à l'hôpital Saint-Louis, précisément pour les gens du bloc opératoire. C'est-à-dire qu'il ne s'adressait pas à des patients, mais à des soignants. Donc moi, j'étais intrigué, j'ai demandé à être présent à la conférence, et Pascal, m'ayant introduit comme réalisateur et comme une personne qui voulait faire un film sur le sujet, Marie-Christine Beck, une anesthésiste, m'a demandé si je voulais revenir pour observer de plus près l'endroit où elle travaillait, parce que pour elle, il y avait des problèmes de burn-out et de risques psychosociaux aigus. Et donc, suite à ça, moi qui ai eu envie d'être chirurgien quand j'étais jeune, c'était l'occasion d'aller visiter un endroit comme celui-là, et puis après de constater que même dans un hôpital, et qui plus est un hôpital public, il y a des problèmes de rentabilité et d'efficience qui font courber les chines au personnel.
Parce qu'on voit un véritable travail à la chaîne. Il y a 14 salles d'opération et on travaille quasiment à flux tendu dans ces salles.
Oui, absolument. C'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'on est un petit peu devant un hôpital industrie. Le patient est devenu une sorte d'objet ou d'une pathologie. En fait, on entend peu parler par les noms.
On entend par le nom de sa maladie. On fait descendre un abcès, par exemple.
Voilà, exactement. Ou le nom de l'opération. Et donc, j'avais un petit peu des images de Charlot, les temps modernes. Donc on voit vraiment le rythme, la cadence et les opérations se succédant. On voit l'humain qui essaye de suivre le rythme en fait. Et donc j'étais assez intrigué par le fait que cet endroit soit devenu à ce point un endroit où l'efficience et la productivité sont les mantras des managers.
Et ce qui est surprenant, c'est que ce sont ceux qui sont censés soigner qui sont en quelque sorte malades d'une maladie de société. On s'attend souvent, de manière un peu comme ça dans l'imaginaire, à ce qu'un médecin ne soit jamais malade. Alors ici, on les découvre vraiment souffrant d'une pathologie qui n'a peut-être pas de nom, mais qui rend la situation très difficile à vivre sur le terrain.
Oui, mais en fait, ce n'est pas que dans l'imaginaire. Je pense que le médecin est justement le représentant d'une profession de gens qui ne peuvent pas être malades. Ils doivent être tout le temps sur le pont. Et en fait, quelque part, ça nous signifie que le burn-out n'est pas la maladie des lâches, n'est pas la maladie des fainéants, c'est la maladie justement des gens qui sont dévoués entièrement au système dans lequel ils travaillent, à la société ou à leur métier. C'est pas les tirs au flanc, c'est pas les gens qui se tiennent, les tirs au flanc, ça vient des soldats qui se tenaient sur les flancs des pelotons pour éviter les balles. Non, les gens qui attrapent ce genre de pathologie due à l'organisation du travail sont des gens valeureux et courageux, justement.
Et justement, il y a aussi cette chose importante de voir que ces médecins, en fait, ils en veulent, mais par rapport à l'idéal qu'ils avaient quand ils étaient jeunes, quand ils étaient entrés en milieu hospitalier, et ce qu'ils sont réduits à faire à la chaîne sans plus aucune possibilité de vraiment prendre intérêt, soit à donner cours, soit à vraiment prendre à cœur le patient, il y a un décalage énorme qui s'est passé pour eux.
Oui. Là, vous évoquez en fait la perte de sens du travail et aussi le manque de gratification. Les deux vont de pair et surtout les deux concourent à l'émergence du burn-out. C'est-à-dire qu'effectivement, le sens du travail est quelque chose qui fait en sorte, comme la gratification, qui fait en sorte que je peux recharger mes batteries. J'ai réussi, j'ai accompli la mission qu'on m'avait donnée, je comprends le sens et je vois à quoi sert mon travail, je suis donc gratifié, je peux me reposer tranquillement, je peux me remettre de mes émotions, me remettre de l'effort que j'ai fourni. Et si ce n'est pas le cas, et c'est ce qui arrive dans nos sociétés où finalement le lean management, le toyotisme, les systèmes très performants de management font que l'humain, justement, on essaye de chasser les temps, les imprévus, on essaye de chasser les irrégularités, on essaye de chasser toutes les pertes de temps et d'énergie. Mais le problème, c'est que certaines, entre guillemets, pertes de temps nous permettent de nous ressourcer, nous permettent de reprendre un petit peu de force pour continuer. Et c'est ça qui est dommage dans notre société, c'est qu'on a peu à peu, il n'y a pas de méchant, de grand méchant loup, hein, ce n'est pas le méchant actionnaire contre le pauvre travailleur, je pense que c'est un système qui fonctionne et qui, au passage peut-être, au tournant des années 70, quand il y a eu la finance qui a remplacé l'économie et qu'il y a eu un besoin, une envie de rationalisation et surtout de d'efficience et de productivité, le financement devienne le corps, de l'objet de toute société, eh bien à ce moment-là, on a oublié l'humain, tout simplement. Et aujourd'hui, il est temps de replacer l'humain au centre du travail. RCF.
Vous avez dû gagner la confiance du personnel, de tous ces intervenants, pour pouvoir être si proche d'eux, pour pouvoir dialoguer, parce que vous les interrogez parfois aussi.
Oui, tout à fait. Mais en fait, moi, je fais du documentaire. C'est pas la même chose que le reportage. Le reportage, c'est des choses que vous voyez plutôt à la télévision. C'est des documents que vous voyez à la télévision qui prennent moins de temps de fabrication et qui sont plus objectifs, on va dire, sur les faits. Moi, mon travail consiste à faire du documentaire, c'est-à-dire à rester longtemps, à investiguer très longtemps et puis à devenir complice des gens avec qui je vais, enfin des gens que je vais filmer. En l'occurrence ici, je suis resté un an et demi avant de poser ma caméra, avant de sortir ma caméra et de commencer à filmer, un an et demi d'observation et pour essayer de comprendre ce qui se passait, la dynamique, etc. Et puis me présenter mon travail, essayer d'expliquer aux gens ce que j'étais en train de faire, même si on découvre au fur et à mesure, c'est l'art du réel aussi, de la capture du réel, donc on découvre en même temps ce qu'on est en train de faire. Et puis après, j'ai pris ma caméra et j'ai tourné pendant une année. Et donc, ce faisant, j'ai commencé à faire partie du collectif. Je ne suis pas devenu invisible. Peut-être que ma caméra est devenue moins visible ou moins impressionnante, mais moi, je suis devenu un personnage à part entière de cette histoire. Et du coup, je crée aussi et je laisse voir mon personnage dans le film. Je laisse voir, quelque part, l'influence que je produis sur le système.
Oui, vous n'êtes pas absent de l'image, absent peut-être de manière visuelle, mais on vous sent en interaction, on vous sent aussi quand vous filmez certaines altercations entre notamment un médecin et son anesthésiste dans un couloir et l'anesthésiste qui n'en peut plus, qui est prête à pleurer parce qu'elle ne se sent pas reconnue. Le médecin lui-même ne comprend pas très bien ce qu'elle ne comprend pas parce que ce n'est pas dans son schéma de pensée. Vous êtes là à la fois pudique et impudique dans la caméra.
C'est-à-dire que oui, je fais partie du collectif, je fais partie du personnel quelque part. Chacun a son rôle et moi j'ai un rôle un petit peu transversal et décalé. Et puis un peu atypique, parce que ce n'est pas tous les jours qu'il y a une caméra qui se balade dans les couloirs de telle ou telle entreprise, ni même dans les couloirs d'un hôpital comme celui-là.
Et encore moins dans des salles d'opération, parce que vous êtes dans certaines salles d'opération.
Oui, tout à fait.
Proche des corps, proche des gens, mais aussi proche des réunions de travail. On vous voit parce qu'on discute à un moment donné de l'audit qui est en train de se faire ou qui va se faire, des questions qu'on se pose par rapport à sa pertinence, si je me souviens bien, mais également par rapport aux questions entre la direction, les cadres, les médecins, le personnel. Y a-t-il une voie pour s'en sortir ? Et certains vont tenter de trouver une solution.
Ben c'est toute l'histoire du film, en fait. C'est ce système. Je ne voulais pas montrer une situation figée et catastrophique qui nous alerte, mais je voulais montrer l'évolution d'un système. À un certain moment donné, la direction se rend compte qu'il y a un problème et essaye d'infléchir la problématique. Et tout le monde essaye de trouver des solutions. Et bon, ma position à moi, si vous voulez, comme vous l'avez dit, je suis proche des gens, proche des corps. je fais du cinéma de l'intime. Ça veut dire que je voulais voir cette problématique de l'intérieur et en étant justement très relié aux gens. En étant vraiment... en fait, physiquement, je tourne moi-même, je fais les images et le son, ce qui veut dire qu'en fait, je ne peux pas les percher. Mon micro est sur ma caméra, je dois être à maximum 1m50 de la personne qui me parle pour avoir un son convenable. Donc ça veut dire que je suis obligé d'être très près, d'être, j'ai envie de dire, dans leur aura. Et en fait, c'est à l'intérieur, c'est dans l'aura des gens, je pense, qu'on peut percevoir dans un certain sens la détresse, parce que c'est une partie du film, et dans un autre sens peut-être le lien. Le lien, on sent la personne qui veut se relier aux autres et on sent du coup l'importance de cette chose, de cette chose qui paraît un petit peu une science molle, hein, le lien humain, qu'est-ce que c'est ? Ben, ce lien qu'on a oublié et qui finalement fait défaut au point que même les médecins tombent malades.
Il nous reste un peu plus d'une minute trente. J'aimerais insister sur deux éléments encore. Vous faites des inserts d'images de cellules durant votre film que vous inaugurez par un plan où on descend, la caméra descend sur l'hôpital, et puis à la fin elle remonte. Donc en parlant d'abord des inserts et aussi du choix musical final pour conclure votre générique. On va parler des inserts tout d'abord.
Les inserts, si vous voulez, j'ai voulu que le spectateur ait la possibilité à un moment donné, à certains moments, dans un film qui est très parlant, c'est-à-dire les gens parlent beaucoup, des fois ils s'engueulent aussi, c'est d'avoir des moments de silence, enfin un silence ou en tout cas musicaux et avec de la musique classique, et de voir des cellules parce que je pense qu'il y a toute une symbolique des cellules. J'essaye de regarder le système à différentes focales, en fait. Là, je suis en macro, et puis il y a des moments où, comme vous l'avez dit, quand je vois toute la ville de Paris où se passe l'action, et bien à ce moment-là, je suis plutôt au téléobjectif. Donc, c'était une question de focale. En ce qui concerne la musique,
Bob Dylan, donc, il y a plus de 40 ans, je pense.
Oui, Bob Dylan, The Time They Are Changing. Ben, pour moi, c'est un hymne au changement. C'est à la fois, c'est Bob Dylan dans toute sa verve. Et en même temps, c'est une époque qui dit, il est temps de changer. Et comme vous le dites, c'était il y a 40 ans. Mais je pense qu'il y a des cycles. Et puis, il y a des rappels aussi. Et cette chanson est là pour nous signifier que c'est pas encore fait.
Et que même, cependant, là, pour Saint-Louis, c'est un espoir possible.
Moi, je suis tout à fait optimiste dans la mesure où je pense que l'humain ne demande qu'une chose, c'est à se relier. Donc, je suis optimiste, je le montre dans le film et je pense que Saint-Louis a toutes les raisons de se réjouir du film, même si ce n'est pas un film facile.
Jérôme Lemaire, merci d'être venu nous parler de votre film Burning Out. Et je ne puis donc que conseiller à nos éditeurs d'aller voir, seul ou avec des amis, d'en parler ensuite, ce film Burning Out qui sort dans les salles depuis le début du mois de mai 2017. Merci Jérôme.
Merci beaucoup à vous.
RCF.